Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Eh oui, la matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre réveil. Le principe, je vous le rappelle, il s'agit de former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers à la bibliothèque Saint-Corneille, en classe lorsque je travaille avec des établissements scolaires ou dans un autre lieu insolite. En l'occurrence, cette année, nous étions à l'atelier de la Dame aux Fleurs. Ensuite, nous enregistrons les productions des participants sous forme d'émissions, notre matinale infernale bien sûr. Moi c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture et séries des bibliothèques de Compiègne. Je souhaite la bienvenue ce matin dans notre studio à Elsa.
Bonjour.
À Miss Kilt.
Bonjour.
À Martin, notre étoile filante.
Bonjour.
Et à Bad Cave.
Hello.
D'ailleurs, si certains auditeurs ont envie de découvrir nos ateliers ou d'assister à nos émissions, ils n'ont qu'à me contacter. Je suis sûre qu'on peut arranger ça. Vous me trouverez sur Insta ou Facebook à YGBleu, c'est mon nom d'autrice. Ou sinon, vous pouvez aussi contacter directement Graphite. On commence ce matin la tête dans les étoiles avec Martin, bien sûr.
Ce matin, comme promis la dernière fois, ce sera Mars. Bon, cette belle planète qui, d'après son surnom, est rouge, mais en réalité orange, est une planète tellurique. La dernière avant les planètes gazeuses, pour être plus précis. Elle est à combien de kilomètres de la Terre, déjà ?
Oh, des millions.
Ouais, au moins ça, hein.
Non, elle est à 5 millions de kilomètres, donc c'est plus précis, parce que des millions, c'est un peu moins précis.
Excuse-nous.
C'est vague.
De la Terre. Et c'est pour ça que les personnes qui vont prennent 258 jours pour y parvenir. Pour continuer, à combien de kilomètres est-elle du Soleil ?
Des millions de millions.
Super la réponse.
Je t'en remercie.
C'est très précis. Bah du coup, non. Elle est en réalité à 228 millions de kilomètres du Soleil.
Ça fait une trotte.
C'est pas des millions de millions, c'est des centaines de millions.
Merci pour la précision, Martin.
Mais attendez, quoi ? 686 jours pour faire sa révolution ? C'est 321 jours et des brouettes de plus que la révolution de la Terre. Et aussi, elle met 1 jour et 37 minutes pour faire sa rotation. Deuxième petite question. Est-elle plus petite, plus grande que la Terre, et combien de fois l'est-elle plus, moins ?
Plus grande ?
Plus grande, ouais, plus grande, moi je dirais ça aussi. Hein.
Deux fois plus grande.
Et non, encore une fois, elle est 7 fois moins volumineuse que la Terre.
On a tout faux.
Et petite info supplémentaire, elle est 10 fois moins massive que notre planète adorée. Mars a été nommée par les Romains comme le dieu de la guerre, car elle est rouge, entre guillemets, comme le sang. Elle est plus froide que la Terre, elle est autour des moins 63 degrés Celsius. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais Mars est la planète la plus habitable. On y a même découvert de l'eau sous forme de glace. Il y aurait entre 1,5 et 3 % d'eau. Mais son atmosphère n'est pas respirable. C'est d'ailleurs la seule planète à ce jour où nous avons envoyé des rovers. Ah. Dernière question. Y a-t-il des Martiens sur Mars ? Pas pour l'instant, mais si on... J'ai dit la réponse.
T'as dit la réponse. Bah, en même temps, on se doute bien qu'il n'y a pas de Martiens.
C'est totalement une excuse. Mais je suis fatiguée quand même.
Là, c'est le matin, on se réveille.
Oui. Mais c'est une excuse quand même.
Donc pas pour l'instant. C'était ça ta réponse.
Pas pour l'instant, mais si on est... Mais si on y s'y installe un jour, nous serons des Martiens.
Ce sera nous les Martiens en fait.
C'est dur pour moi ce matin.
Courage Martin.
Voilà, c'est tout pour ce matin. La prochaine fois, ce sera sûrement Saturne et ses anneaux. Au revoir.
Attention, c'est une promesse. Hein.
C'est une promesse.
Cool, merci beaucoup. Ben moi, j'ai appris plein de trucs parce que je ne savais pas.
Accepted.
Ah, ouais. Cool. La dernière fois, vous m'avez réclamé une musique que je n'avais pas sous le coude. C'était aussi un peu une musique de l'espace et pas tout à fait une musique de martien, mais quand même une musique d'extraterrestre. Il s'agit de The Diva Dance. Je vous propose qu'on écoute ça après cette magnifique intervention sur Mars.
Magnifique.
Et voilà, nous sommes de retour dans notre matinale
infernale.
Toujours sur Graphite. Aujourd'hui, nous avons eu droit à Mars et avec, grâce à Martin, notre étoile filante, nous avons écouté cette chanson que j'adore et qui nous a été réclamée dans l'émission précédente The Diva Dance, extrait du cinquième élément. Et nous accueillons aussi une nouvelle chroniqueuse, il s'agit d'Elsa, qui a un thème bien particulier à traiter aujourd'hui. Et je vous mets une toute petite musique qui va vous donner un indice avant qu'elle nous en dise plus.
Vous saviez que la ville la plus peuplée au monde était Tokyo ? Plus de 40 millions d'habitants. C'est plus que le Canada. Comment imaginer qu'une ville puisse accueillir autant d'habitants ? À l'évidence, le Japon cache bien des secrets. Alors plongeons ensemble dans l'univers fantastique du pays du soleil levant. Faisons d'abord un point géographique. Le Japon se situe à l'est de l'Asie, dans l'océan Pacifique. Il est nommé pays du soleil levant car c'est le premier pays à être éclairé par la lumière du soleil. Mais est-ce bien vrai ? En effet, certains scientifiques affirment que le premier pays à voir la lumière du soleil n'est autre que les îles Salomon, en Océanie. Cependant, nombre de scientifiques disent aussi que le Japon est bien le pays du soleil levant. Le drapeau du pays illustre effectivement le soleil qui se lève. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre pays adoré, qui est composé de quatre îles. Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. C'est donc un archipel. Lorsqu'on parle du Japon, des villes emblématiques nous viennent à l'esprit. Alors parlons-en un petit peu. Tokyo, la capitale du pays, est comme nous l'avons dit précédemment, la ville la plus peuplée au monde. C'est une cité très moderne. Kyoto, rendez-vous compte, est la ville qui possède le plus de temples dans le pays. Plus de 1700 dans une seule ville. Shirakawa est une ville japonaise, jumelée avec Compiègne. Il existe une association nommée Compiègne-Shirakawa qui rassemble des gens aimant le Japon et voulant apprendre cette langue magnifique qu'est le japonais. Osaka est célèbre pour ses nombreux combats de sumo, un sport très populaire au Japon. Hiroshima est tristement célèbre pour les bombardements qui ont eu lieu dans la ville le 6 août 1945. Nagasaki est célèbre pour les mêmes raisons, car des 195 000 habitants, 134 000 sont morts dans les bombardements du 9 août. En conclusion, chers auditeurs, le Japon n'a pas fini de nous surprendre, et ce, pour de multiples raisons. Alors ne manquez pas la prochaine chronique, des traditions bien ancrées.
Merci beaucoup Elsa, c'était Parfait, moi j'ai appris plein de trucs. Je voudrais quand même que nos auditeurs ils sachent quel âge tu as, Elsa.
J'ai 11 ans.
J'ai 11 ans. T'es trop mignon. Voilà, bravo, félicitations. Tu es notre plus jeune chroniqueuse. Et c'est ma fierté parce que j'ai trouvé ta chronique super. Voilà. Et en plus, tu nous as fait une petite transition avec la prochaine chronique de Miss Kilt.
En voyage avec Miss Kilt, et cette année, c'est grâce au jumelage. Si je vous dis Avenue d'Huy, rue d'Arona ou encore rond-point Shirakawa, et la liste est longue, est-ce que cela vous dit quelque chose ?
Ce sont des rues de Compiègne ou des endroits dans Compiègne ?
Oui, c'est cela. Ce sont des noms de rues de Compiègne. Et c'est l'odonymie qui va nous renseigner sur le choix du nom de ces rues. Si l'an dernier, vous avez écouté nos chroniques, vous vous souvenez peut-être que ma collègue, la marin baladeuse, avait parlé de ce mot d'origine grecque qui signifie « étude du nom des rues, des avenues, boulevards, etc. ». Maintenant, si nous nous penchons sur le nom des rues que je viens de citer, nous constatons que ce sont des noms de villes. Huy est situé en Belgique, Arona en Italie et Shirakawa au Japon. Mais alors, vous vous demandez pourquoi ces pays ? Eh bien, c'est tout simple. Ce sont des villes jumelées avec Compiègne. Et elles sont au nombre de 13. D'ailleurs, Compiègne en possède autant que la ville de New York. Ce qui est plutôt élevé dans ce domaine. Bien sûr, l'Europe est à l'honneur avec Landshut en Allemagne, Arona en Italie, Bury St. Edmunds en Angleterre, Elbag en Pologne, Guimarães au Portugal et Vianden au Luxembourg. Les autres continents le sont aussi, puisqu'entre autres, Larache au Maroc ou Raleigh aux États-Unis sont jumelés avec notre belle ville de Compiègne. Nous avons tous une petite idée de l'origine des jumelages, mais profitons de cette émission pour nous en remémorer les détails. Vous ne le savez peut-être pas, mais des traces de jumelage entre villes ont été retrouvées dans des documents historiques. Par exemple, en l'an 836, sous Louis le Pieux, a eu lieu le jumelage religieux entre les villes du Mans et de Paderborn en Allemagne. Mais c'est évidemment surtout après la Seconde Guerre mondiale que les jumelages se sont nettement développés, en particulier entre la France et l'Allemagne. En effet, au lendemain de cette sombre période, l'Europe souhaite la réconciliation des peuples. Et c'est Montbéliard, située en Franche-Comté, qui est la première ville à initier un jumelage avec la ville de Lübeck en Allemagne. Pourquoi Montbéliard, allez-vous me demander ? Eh bien, c'est le maire de l'époque qui a eu la ferme conviction de commencer ce beau geste de résilience. Son nom, Lucien Tarradin. Un ancien résistant qui a survécu au camp de concentration. Il a été le premier à créer un jumelage entre la France et l'Allemagne. Ainsi, dès 1950, les bases officielles des jumelages sont posées et ils vont largement prospérer. 20 ans après, le nombre de jumelages s'est fortement accru. En effet, plus d'un millier sont signés au début des années 1970. Les préfectures encouragent les communes à s'unir et à mettre la culture au cœur des échanges. Aujourd'hui, près de 4300 communes françaises sont jumelées, dont un tiers concerne encore des villes allemandes. Par la suite, d'autres pays ont créé des jumelages entre leurs communes. C'est le cas de l'Espagne après la mort de Franco et la chute de la dictature en 1975. Du Portugal aussi, ou de l'Italie. Et bien d'autres pays encore. L'objectif des jumelages consiste à tisser des liens, car c'est une façon de coopérer dans le domaine de la culture, du patrimoine ou du tourisme. De l'éducation aussi, car cela peut amener des échanges entre collégiens afin de favoriser l'apprentissage des langues étrangères. Des événements sportifs ou culturels peuvent aussi être partagés. L'adage « qui se ressemble s'assemble » s'applique pour de nombreuses villes jumelées. Car elles ont souvent des points communs ou intérêts communs. Taille, situation similaire, en bord de mer, à la montagne, même secteur d'activité, etc., etc. Par exemple, Limoges, célèbre pour sa porcelaine, s'est rapprochée de Seto, une ville japonaise connue pour ses céramiques. Paris, elle, a trouvé sa sœur jumelle en 1956. Et devinez quelle belle ville est sa jumelle ?
J'ai oublié.
Rome, non ?
Rome, oui, c'est Rome. D'ailleurs, voici la maxime de l'union de ces deux magnifiques capitales. Seul Paris est digne de Rome. Seul Rome est digne de Paris. Maintenant, je vous laisse méditer cette modeste devise et vous donne rendez-vous prochainement pour vous emmener en voyage grâce au jumelage.
Merci, Miss Kilt. Et oui, et du coup, Shirakawa, Elsa l'avait dit aussi, une des villes jumelées.
Ville jumelée avec Compiègne.
Eh bien, après ces voyages, et c'est dans différents endroits du monde, je vous propose une petite chanson. Enfin, en fait, c'est pas moi qui te la propose, c'est Miss Kilt qui me l'a proposée. Give Peace a Chance de John Lennon, ce fameux réconciliateur entre les peuples. 2, 1, 2, 3, 4.
Et nous sommes de retour sur Graphite dans notre matinale
infernale.
Eh bien, après ces voyages dans l'espace et à travers le monde, je dirais place aux artistes. Nous allons commencer avec les auteurs et c'est moi qui vais prendre la suite de ces chroniques. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre, j'arrive toujours à trouver au moins une coquille. Même sur des grosses éditions, parfois il s'agit que d'une faute ou plutôt d'une erreur d'impression, d'un tiret mal placé. Mais je trouve toujours la petite bête. Pourtant, je me dis que ce type de livre doit être relu et corrigé à plusieurs reprises par la maison d'édition. Donc voilà, ça m'interpelle toujours. Aujourd'hui, je voudrais donc revenir sur un point essentiel de tout livre, la correction. Quand je demande aux élèves que j'ai en atelier ce qui est le plus important pour moi dans un récit, l'orthographe est la réponse qui revient le plus fréquemment. Penser qu'on peut s'en sortir seul serait une erreur de débutant, même si on est bon en orthographe. Donc pour les auteurs, il y a deux façons de se faire aider sur cet aspect pointilleux. Les logiciels correcteurs et les correcteurs professionnels, humains je veux dire. Quels sont les bénéfices d'un logiciel correcteur type Antidote? Alors je cite celui-ci parce que moi c'est celui que j'utilise, donc en l'occurrence je vais parler de ce que je connais, c'est mieux. Déjà, je dois préciser que ce logiciel est bien plus performant que le correcteur Word, ou Google, et qui se greffe à ces logiciels de traitement de texte, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc du coup c'est très pratique. En cours d'écriture, le correcteur automatique pointe déjà des petites choses. Quand on est dans le flow de l'écriture, on est concentré sur le fond et moins sur la forme. On fait des erreurs bêtes et des fautes de frappe. Ensuite, en fin de roman, je fais toujours une relecture minutieuse sur l'intégralité du récit. Je vais plus en profondeur et le logiciel correcteur me met en exergue mes erreurs. Accords oubliés, fautes qui ont pu m'échapper, répétitions que je repère également quand je relis mon texte à voix haute, parce que c'est un rituel que j'ai pour écouter le rendu et reconnaître les phrases trop lourdes, notamment. En vérité, une fois que j'ai fait ça, en général, j'ai l'impression que mon roman est nickel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'y ai passé du temps et que j'en ai marre. J'ai juste envie qu'il soit impeccable. Mais il ne l'est pas encore. Les logiciels ne sont pas parfaits, ils ne captent pas toujours l'essence de la phrase qu'on a écrite et de ce fait ne la corrigent pas comme ils devraient. Surtout qu'en français, on aime bien les phrases bien longues. Ça reste une question de style, mais parfois, le logiciel se trouve un peu perdu avec nos tournures de folie. Qu'apporte donc de plus un correcteur professionnel ? Eh bien, un correcteur ou une correctrice mettra du temps, ça je peux vous le garantir, mais aussi toute son expérience et du cœur. Ils interviendront sur tous les domaines si c'est ce qu'on leur a demandé, à savoir orthographe, syntaxe, concordance des temps, coquille, faute de frappe, répétition, et j'en passe. Sa relecture peut même aller au-delà de ces aspects qu'on pourrait qualifier de classiques. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Un exemple tiré de mon roman 62 minutes. J'avais écrit « Annie est une mère, elle a entendu la voix de son fils, invective. » Que comprenez-vous, cher chroniqueur ?
Que son fils s'appelle invective.
Non.
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, invective de base.
Elle était agacée.
Non, non plus.
Ok. Eh bien, c'est intéressant parce que déjà, il se trouve que du coup, Martin, tu ne connais pas le mot invective, et ça, c'est intéressant aussi. Et Nathalie, tu as dit que la voix était agacée, a priori.
Oui,
eh bien, il se trouve déjà que invective n'est pas un adjectif. C'est moi qui ai utilisé ce mot dans ce contexte-là, mais en fait, c'est utilisé quasi exclusivement dans l'expression se répandre en invective ou encore invectiver quelqu'un. Et qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il s'agit de prononcer des paroles violentes et injurieuses. Invectiver quelqu'un sera en toute logique un synonyme d'insulter quelqu'un. Alors, vous n'avez pas le contexte de ma phrase, mais je peux vous assurer que le fils d'Annie n'était pas du tout en train d'injurier sa mère. Ce que je voulais plutôt dire, c'était que son ton était sans appel, que sa voix ne laissait place à aucune question, qu'il s'agissait de paroles qui tombaient comme un couperet. Alors, pourquoi j'ai mis ce mot « invective » à cet endroit ? Eh bien, sans doute, parce que j'en connaissais mal la définition, de toute évidence, et que ça me paraissait intelligent sur le moment. Dans ce cas précis, j'aurais pu me relire 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, ça n'aurait rien changé, puisque j'étais persuadée d'avoir utilisé le mot qui convenait. Alors peut-être qu'un bêta lecteur me l'aurait fait remarquer, mais étant donné que c'est un mot peu usité, c'est pas sûr. Et c'est là tout l'intérêt d'un travail de correcteur consciencieux, puisque contrairement à un bêta lecteur qui va pouvoir passer outre même s'il ne connaît pas bien le terme, un correcteur, lui, va faire une recherche approfondie pour nous montrer qu'ici, ce n'est pas du tout le terme adéquat. Grâce à l'intervention de ma correctrice, en l'occurrence c'était une femme, d'ailleurs, Jennifer, je te salue. Encore merci pour tout le travail que tu accomplis pour moi. Je sais que tu es en train de corriger en ce moment mon dernier roman, donc voilà, je te laisse à ton travail. Mais bref, grâce à son intervention, eh bien, mon roman a évité un non-sens. J'ai modifié la phrase comme suit. Annie est une mère, elle a entendu la voix irrévocable de son fils. Et des exemples de ce type sur l'intégralité d'un roman sur plusieurs centaines de pages, eh bien, il y en a d'autres. Alors, que je sois édité en maison d'édition ou que je passe par de l'auto-édition, la correction professionnelle n'est plus une option pour moi, parce que je mets un point d'honneur à proposer un texte impeccable, même si parfois la maison d'édition revient dessus après coup pour des raisons éditoriales. Mais bien sûr, voilà, ça a un coût. Et si les auteurs auto-édités ne sont pas toujours assez pris au sérieux, je pense que c'est aussi l'une des raisons. Il faut pouvoir proposer un ouvrage de qualité professionnelle et ça passe par un texte irréprochable. Le coût d'une correction, c'est aussi le prix de notre image d'auteur et à mon sens, c'est inestimable. Voilà, voilà. Eh bien, passons à d'autres artistes, plus musicaux, cette fois grâce à Bad Cave.
Salut les amis, moi c'est Bad Cave. Laissez-moi plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prendrez bien une petite cure de spleen, mais si, c'est excellent pour la santé. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un artiste qu'on pourrait placer dans la catégorie chanteur préféré de ton chanteur préféré. C'est-à-dire un musicien relativement injustement méconnu du grand public, alors qu'il a influencé un grand nombre d'artistes beaucoup plus exposés médiatiquement. Je vais vous parler de Gary Numan, musicien britannique né en 1958, compositeur et interprète de plusieurs tubes post-punk de la fin des années 70. Parmi ceux-là, le titre « Down in the Park » que je vous propose d'écouter à la fin de cette chronique. En effet, après un succès éphémère au tournant des 80s, Gary Numan est passé par une longue traversée du désert, puis a été réhabilité et relancé à la fin des années 90. Il doit ce retour en grâce aux hommages rendus par des stars du métal industriel comme Marilyn Manson et Nine Inch Nails. Génie méconnu, caché derrière l'artiste star, j'ai découvert son titre « Down in the Park » dans une version qui n'était pas celle d'origine. Il s'agissait d'une reprise sortie en 1994, interprétée par le pape du heavy metal, électronique et satanique, j'ai nommé Marilyn Manson. Il remplaçait la face B de son single « Lunchbox ». Il remplissait la face B de son single Lunchbox. À l'époque, je naviguais dans les eaux troubles du metal indus, ce style musical disruptif qui faisait rage à la fin du deuxième millénaire. Et là, au milieu de cet enfer sonore, surgissait une mélodie entêtante qui a marqué nombre de musiciens amateurs d'ambiance crépusculaire. Manson, qui s'est rendu célèbre grâce à ses reprises fracassantes de Sweet Dreams des Eurythmics ou encore Personal Jesus de Depeche Mode, se livrait là à nouveau à une appropriation très personnelle de l'héritage pop des années 80. C'est en remontant aux sources que j'ai découvert Gary Numan, le véritable auteur de cette chanson, une belle révélation. Gary Numan, figure emblématique du post-punk, il s'était démarqué des musiciens rock de sa génération par une approche résolument futuriste. Au lieu de réinterpréter les codes du punk et du rock, Numan plongeait la tête la première dans l'univers des synthétiseurs. Pour composer ce morceau, Numan s'est interdit de toucher à une guitare ou à une batterie. Tout devait sortir des premiers synthétiseurs accessibles au grand public en 1978. Il créa alors une musique captivante pour mieux raconter des histoires futuristes et inspirée de ses lectures de Philip K. Dick et de Lovecraft. Son look androgyne, ses paroles habitées par la dystopie, l'aliénation technologique, en faisaient une figure à part, visionnaire. Down in the Park porte une mélodie entêtante qui se déroule sur un fond sonore cinématographique. Un son de synthétiseur, rappelant celui d'une section d'instruments à cordes, joue un thème inquiétant, tandis que la voix de Newman, énigmatique et Bowie-esque, évoque un personnage tourmenté. Les paroles, quant à elles, décrivent un monde terrible dans lequel des robots programmés pour tuer des êtres humains constituent l'attraction principale d'un programme de télé-réalité vidé de toute éthique. Down in the Park est un manifeste, un cri d'alarme lancé dans un monde en mutation. C'est aussi un pont entre deux générations d'artistes, un lien indélébile entre post-punk et metal indus. En écoutant cette chanson, je ne peux m'empêcher de penser à l'héritage de Gary Newman. Son influence se ressent encore aujourd'hui dans la musique de nombreux artistes, et c'est notamment grâce à des reprises comme celle de Marilyn Manson que son œuvre a continué de vivre et d'évoluer.
Merci beaucoup, Bad Cave. Je ne sais pas si on va avoir un week-end en mutation. Mais en tout cas, on va pouvoir écouter Down in the Park pour clôturer notre émission, puisque évidemment, nous arrivons à la fin. Merci à vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses, Elsa, Miss Kilt, Martin et Bad Cave. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Je vous souhaite un très bon week-end et vous dis à bientôt pour une prochaine émission de la matinale
Infernale.